Le passage de ce matin vient de Colossiens, encore une fois, mais c'est le chapitre 3 et les versets 1 à 17. Colossiens 3, versets 1 à 17. Et je vais prier d'abord. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ce moment ensemble devant toi, dans ta maison, avec ton peuple. Nous prions que ce matin, que ton esprit qui a inspiré cette parole, soit notre enseignant, soit notre berger qui nous conduit vers le bon berger, Jésus. Et nous prions que tu sois à l'œuvre parmi nous et que tu nous bénisses et que tu nous aides à grandir en ton Fils. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen. Donc, Colossiens, chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessous tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Donc voici notre texte pour ce matin. Alors hier, on a vu plusieurs choses, on a commencer par ce modèle ou ces marques de la maturité, la foi persévérante en Christ, l'amour parfois coûteux pour son peuple, nos frères et sœurs, et cette espérance qui perdure, qui a ce cap qui est Jésus. On a vu également le cœur battant de cette maturité, c'est-à-dire cette connaissance personnelle de Dieu, notre Père, par Jésus, en Jésus. Et on a vu également hier après-midi l'encre, si je puis dire, l'encre de la maturité, Christ comme au début, par la foi seule, accueillir Christ comme un enfant, s'enraciner en lui de plus en plus. Et ce matin, dans ce passage, je propose qu'on voit ensemble les fruits de la maturité, une vie à l'image de Christ. Et ce fruit ne vient pas de manière passive. Je suggère que dans notre passage, on voit peut-être l'idée d'une lutte, en tout cas quelque chose une action de notre part, une lutte au niveau de notre pensée, une lutte au niveau de notre cœur ou de notre corps, et aussi au niveau de nos émotions. Ce qui en soi n'est pas surprenant quand on pense à comment Jésus a confirmé ce que la loi de Dieu exige de nous. Il a cité ce passage dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer Dieu comme son prochain. Et ici, on va voir une lutte mentale, une lutte interne, une lutte émotionnelle, justement pour aimer Dieu de tout notre cœur, notre intelligence et toute notre force. Alors, on va commencer par cette idée de lutte mentale. Alors, un athlète qui se prépare aux Jeux olympiques doit travailler autant sur son physique que sur le mental. Le mental joue un rôle extrêmement important, voire décisif. Il faut s'y préparer mentalement. Il faut croire qu'il est possible de l'emporter, de gagner. L'athlète doit s'imaginer en train de franchir la ligne d'arrivée devant les autres. Et il se projette dans cette victoire, dans ce moment de gloire à venir, quand il sera sur le podium pour recevoir la médaille d'or et entendre l'hymne national. Et le mental est tout aussi important pour le chrétien, celui qui veut grandir dans la foi, qui, comme Paul a dit, on le voit à la fin du chapitre 1, qui veut être présenté adulte en Jésus, il doit travailler sur cet aspect mental. Alors, le verset 1 de notre passage, chapitre 3, le dit de cette manière. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez ardemment les choses d'en haut, les choses célestes, les choses de Dieu. » Et donc, c'est une question d'orientation, l'orientation de la pensée. Il faut que notre pensée se préoccupe des choses de Dieu, des choses qui lui plaisent, des choses qui concernent Christ, des choses qui concernent sa personne, son royaume, ses desseins, sa gloire. Et le verset 2 le précise en disant « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il y a une expression en anglais qui prétend que quelqu'un qui est tellement préoccupé, tellement focalisé sur les choses d'en haut, les choses célestes, ne sert plus à grand-chose sur la terre. Je pense en français, on dirait que quelqu'un comme ça se plane à 10 000 kilomètres, en tout cas très haut. Mais on voit dans ce passage que c'est tout le contraire. Se préoccuper des choses de Christ, c'est un peu la condition sine qua non d'une vie pratique vécue pour Christ. On verra comment ça change les choses dans un instant. Mais voyons aussi dans ces premiers versets pourquoi cette nouvelle pensée est tout à fait possible. Elle découle de qui nous sommes devenus en Christ, de notre nouvelle identité. Voyons ça dans le texte, verset 1 par exemple. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, verset 3, vous avez connu la mort, maintenant votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Verset 4, « À l'avenir, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est une question de notre identité en Christ. Il y a quelques années, j'ai obtenu la nationalité française. J'ai juré allégeance, en quelque sorte, à la République. J'ai pris en quelque sorte une nouvelle identité. J'ai même un nouveau certificat de naissance. Est-ce que ça m'a changé tant que ça? Est-ce que je pense vraiment comme un Français? Est-ce que je râle comme un Français? Est-ce que je me préoccupe du sort politique de la France? Peut-être un peu. Pas tant que ça, en réalité. Mais pour celui qui a mis sa confiance en Christ, quelque chose de nettement plus radical a eu lieu. Paul évoque ici une mort. On est mort. Et ensuite, une résurrection. Ça, c'est bien plus qu'un simple papier avec un certificat de naissance. Notre vie a été cachée en celle de Jésus. C'est Dieu qui a fait ça, c'est l'Esprit qui a fait ça. Il nous a cachés en Christ, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, en celui qui est ressuscité pour que nous puissions être ressuscités avec lui, déclarés innocents avec lui, justes en lui, aux yeux de notre Père. Et ça veut dire que notre vraie vie est cachée en Jésus, identifié à Jésus, connaît le même sort que lui, on est tellement lié à Jésus. Il est notre destin. On va apparaître dans la gloire avec lui quand il revient. C'est surprenant comme expression. Notre vraie vie est avec lui, en lui. Voilà notre avenir sûr et certain. Est-ce que je crois ça? Est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que je pense à ces choses? Encore une fois, ce verset de l'Évangile, « Je crois, oui, viens au secours de mon manque de foi. Aide-moi, Seigneur, à réaliser que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce qui m'est arrivé. Aide-moi à me préoccuper de ces choses. » Parce que naturellement, si vous êtes comme moi, vous pensez bien sûr à des choses sur la terre, à l'argent, à comment s'en sortir. Je pense trop à tout ce qui concerne la vie politique, les affaires courantes, à la carrière, à mes vacances, à mes loisirs. Parfois, c'est simplement ce que l'Internet me propose, les algorithmes. Je scrolle et je pense à ce que l'Internet me propose. Alors, tout ça n'est pas mauvais, ça dépend. Ça dépend de la place que ça prend. Et on est humain, on est créé pour vivre ici-bas. Et en même temps, Dieu nous invite à nourrir notre pensée avec un régime mental où Christ est au centre. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Christ est notre vrai trésor, la vraie gloire qui nous attend, le vrai nous, en quelque sorte. Et au dernier jour, on sera sur le podium avec lui, avec sa médaille d'or. Comme l'athlète qui travaille sur le mental, on doit chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis. Déjà comprendre ça, réaliser ça au plus profond de notre être, se réjouir là-dedans, y penser. Après une lutte mentale, je suggère que le passage évoque une lutte interne. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » C'est en quelque sorte un combat, une lutte, jusqu'à la mort. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un ordre. Faites donc mourir. Les fruits de la maturité passent par ce chemin-là. Il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas dire on est objecteur de conscience, non, non. On parle ici d'un combat avec nous-mêmes, avec ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans nos pensées. Alors, il y a des combats en société parfois, où on lutte pour les vulnérables, les exclus, pour les démunis. Je pense qu'on est appelé à ça. Ça fait partie de ce que ça veut dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça fait partie de notre adoration du Créateur. Mais ici, c'est une lutte plutôt interne. L'accent est là-dessus. Un combat au niveau de nous-mêmes. L'immoralité sexuelle. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche, les mensonges. Et Paul nous rappelle qu'autrefois nous marchions dans ces péchés-là. C'était notre manière de vivre. On n'y pensait même pas, ça coulait de source. C'est comme ça qu'on vivait. Et si on est honnête et lucide, je pense qu'on sait tous que ces choses ne sont jamais loin. On est tous concernés par ces choses. Quand Jésus a invité Pierre, l'apôtre Pierre, à marcher sur l'eau pour le rejoindre. Pierre l'a fait. Mais il a commencé à sombrer dans le lac quand il a pris peur, quand il a regardé vers le bas. Nous, on doit chercher les choses d'en haut, Christ lui-même. Car si on ne recherche pas ces choses-là, il n'y a pas d'espace neutre. Non, comme Pierre, sur le lac, on commence à sombrer dans ce genre de choses. Ces péchés-là, cette boue un peu négative, des choses qui collent à la peau, qui sont jamais très loin. Cette lutte acharnée pour mettre à mort ces choses puise son énergie, sa force, non pas dans notre propre force, mais en Dieu lui-même. La maturité chrétienne n'est pas une médaille offerte à ceux qui ont vaincu ces choses par leur propre force, par leur propre dévouement. Mais en fait, ces fruits sont plutôt un reflet ou un effet secondaire, en quelque sorte, de notre dépendance de Christ. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est son œuvre en nous. Comment est-ce que Paul nous montre comment mener ce combat dans ce passage? Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les versets 9 et 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc déjà, il nous donne cette image, cette illustration du dépouillement du vieil homme et du fait de se revêtir de l'homme nouveau. On ne parle pas ici d'un changement de garde-robe, d'un changement de tenue, ce n'est pas quelque chose de superficiel. On ne parle pas non plus de quelque chose qui ressemblerait simplement au serpent qui change de peau. C'est vraiment radical. C'est comprendre qu'en Christ, en mourant avec lui, on est vraiment devenu des êtres nouveaux, avec une nature nouvelle. En même temps, dans ces versets, on voit qu'il y a le déjà et le pas encore. C'est toujours comme ça dans la vie chrétienne, le déjà et le pas encore. On a cette nouvelle nature, on a cet homme nouveau, cette nouvelle nature, mais elle se renouvelle. Elle a besoin d'être renouvelée sans cesse pour être rendue conforme à Christ. Et qu'est-ce qui permet ce renouvellement? Mais on voit que ce changement est lié à la vraie connaissance. Est-ce que vous voyez ça au verset 10? Pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire la vraie connaissance de Dieu en Jésus. On se souvient de ce qu'on a vu hier avec la prière de l'apôtre Paul. Il a prié pour que les Colossiens connaissent, soient remplis de la connaissance de Dieu. Pas simplement une connaissance intellectuelle, théologique, mais émotionnelle, affective aussi, une confiance en lui. Le connaître comme notre Seigneur, comme notre grand frère, comme le Père qui nous aime. Donc, encore une fois, ça commence avec cet accueil de Christ, tout simple, humble, et on s'enracine en lui. Si on veut lutter contre ces choses, ne pas sombrer, ne pas nous donner aux choses qui sont en horreur au Seigneur, on doit fixer nos yeux sur Christ, le connaître, l'accueillir comme un enfant, s'enraciner en lui. Ensuite, après cette lutte mentale, cette lutte interne, il y a aussi une lutte émotionnelle dans ce passage. Alors peut-être l'image de lutte n'est pas totalement adaptée à cette partie. En tout cas, il y a une action consciente. Verset 12. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Donc, cette action concerne les sentiments, les émotions. On a travaillé le mental en fixant nos yeux sur Christ. On a lutté contre les passions dans nos corps qui déplaisent à Dieu en nous remettant à Christ qui est notre vie. Et maintenant, on se réveille de ces sentiments qui crient haut et fort leur ressemblance à Christ, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. C'est Jésus, n'est-ce pas? Ça nous rappelle les fruits de l'esprit aussi, que Paul décrit dans sa lettre aux Galates. C'est la même chose. C'est ressembler à l'esprit également. Et à bien des égards, on a ici un portrait du croyant mûr qui porte des fruits. Quand les Épîtres évoquent les exigences pour être un ancien dans l'Église, oui, il faut savoir enseigner. Mais fondamentalement, on voit ce genre de traits de caractère auxquels, en réalité, on est tous appelés. Alors, quand tout va bien, je ne dis pas que c'est facile de vivre ces choses, non. Mais bien sûr, c'est nettement plus difficile de vivre ces choses, d'avoir ces traits de caractère, quand les choses sont difficiles. Poursuivre, montrer la compassion, la bonté, l'humilité quand on est en face de l'adversité ou quand les choses se corsent en famille, quand c'est un peu stressant au travail, à l'église parfois, c'est pas simple, mais c'est ça le gage de la maturité quand on porte ses fruits dans ces instances-là. Dans la section suivante, qu'on ne va pas aborder ce matin, Paul évoque les relations à la maison, entre époux, entre parents, entre enfants, et d'une certaine manière aussi les relations au travail. Il nous appelle à la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Être un mari comme ça, une épouse comme ça, un collègue comme ça, être un père, une mère comme ça, être un frère, une sœur à l'Église comme ça. Voici l'appel que Dieu nous donne tous. Ressembler en gros à Jésus. Et quand on parle de la maturité, voici à quoi elle ressemble. Elle ressemble bien sûr à Jésus lui-même. Alors comment est-ce qu'on se réveille de ces choses-là? Comment y parvenir? Comment est-ce que Paul nous aide dans ce passage? Verset 12. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et on voit dans ce verset que ça commence comme toujours, non pas avec nous et nos efforts, mais avec Dieu, avec ce que Dieu a fait. Lui, à nous de recevoir ce qu'il a fait. Comme on a dit hier, comme un enfant, Christ par la foi seul, les mains grandes ouvertes, vides. Et on voit ici qu'on a été choisi par Dieu. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu. Ensuite, c'est lui qui nous a rendus saints, c'est ce qu'il a fait en Jésus. On l'a chanté, son sang versé à la croix a enlevé notre souillure. On a été rendus saints, on est saints en Jésus. C'est lui qui nous a aimés le premier, choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Nous sommes ses bien-aimés. C'est tout simplement l'évangile de la grâce, n'est-ce pas? C'est l'évangile de la grâce qui nous a sauvés, mais il est également notre tuteur. Il nous apprend la vie chrétienne étape par étape. Et Paul nous donne des illustrations. Par exemple, au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. La force de pardonner, la force de se montrer bienveillant, patient, ça ne vient pas de nos propres forces, mais ça vient d'un cœur qui se sait pardonner lui-même, qui a connu personnellement la patience de Dieu, le pardon de Dieu, qui l'accepte humblement au début de la vie chrétienne, comme chaque jour, les mains grandes ouvertes, vides. On voit au verset 14 que Paul nous appelle à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. Que la paix de Christ à laquelle vous avez appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et cette paix est sans doute le pardon acquis par Christ à la croix. C'est ça ce qui nous a donné cette réconciliation, cette paix, cette réconciliation avec Dieu par Jésus. Ici, il s'agit également d'une paix entre nous également, entre frères et sœurs. On est pardonnés ensemble pour être un peuple ensemble, un seul corps. L'Évangile, ou mieux encore, Jésus lui-même est notre tuteur, notre enseignant. Il est celui qui est plein de bonté, plein de patience envers les pécheurs. Et c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous tire vers l'avant. Pour terminer ce matin, je pense que le passage termine avec deux pistes d'application pour vivre ces choses-là, pour grandir dans la foi, pour grandir dans ces fruits de la maturité. Et on les voit au verset 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il y a la parole et aussi la reconnaissance. Cette première clé, la parole. Et Paul ici évoque une vie d'église remplie de la parole, remplie de l'évangile. Cet évangile qui parle de Christ, qui met en valeur la grâce, qui chérit Dieu notre Père. Et je pense qu'il évoque toute une vie d'église. Oui, on peut nous a abreuver de la parole individuellement, c'est une bonne chose, il nous le faut. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on vit ensemble en Église. Le modèle est déjà donné à l'Église. Il s'agit d'une assemblée bien enseignée par ses anciens, ses pasteurs, qui fait réverbérer en quelque sorte la parole dans nos discussions, comme on a fait ce matin, par nos chants, par nos louanges. Par nos prières, on vit de cette parole, on met la parole au centre. Et notre maturité en tant que croyant dépend en quelque sorte de notre maturité collective en tant qu'Église. On grandit ensemble, on n'est pas des îlots indépendants. On a besoin de nos frères et sœurs. Il y a quelques années, c'était un peu la mode entre pasteurs sans doute, de parler de faire des disciples qui font des disciples. C'était comme une phrase qu'on entendait assez souvent. Il n'y a pas de mal à ça. Mais je pense qu'il faut le comprendre de manière collective. On le fait ensemble en Église. Par l'enseignement, par la parole chantée, discutée, appliquée. Chacun à sa manière, chacun selon ses dons, selon ses opportunités. Dans l'Église que j'ai servi en France, il y avait un vieux monsieur. Il s'appelait Jacques, il avait plus de 90 ans. C'était un homme assez timide, voire très timide, il ne disait pas grand-chose, n'osait pas dire grand-chose. Et parfois, il me disait, chez lui à la maison, « Oh, moi, je ne sers pas ou plus à grand-chose dans l'église. » Mais moi, j'ai dû lui dire que ce n'était pas vrai. Il était un homme fidèle. Il venait chaque semaine à l'église, même chaise. Il priait, il lisait sa Bible, il était patient, il était bienveillant. Il s'était bien occupé de son épouse pendant sa maladie d'Alzheimer. Et en quelque sorte, ce monsieur nous montrait le chemin. En fait, il nous montrait les fruits de la maturité. Il était le modèle qu'il nous fallait. Ensemble, en église, on grandit. Dans cette maturité, une église attachée à la parole, à cette parole de Jésus, qui a cette racine pivotante qui s'ancre en Jésus. Et la dernière piste d'application, c'est la reconnaissance. Verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Et ce n'est pas la première fois que Paul a mentionné la reconnaissance dans cette lettre. En fait, c'est un refrain constant. Et je pense que c'est un refrain très important. C'est par la reconnaissance à Dieu le Père pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus que nous adorons Dieu. C'est ça le cœur de l'adoration, dire merci à Dieu. Et ensuite, c'est comme ça qu'on se rappelle, qu'on dit à nos mémoires oublieuses parfois, tout ce que Dieu a fait pour nous. On dresse une liste de raisons de dire merci au Seigneur, de dire merci à notre Père. Et cette liste de sujets de reconnaissance, en fait, quand on dit ces choses à nos cœurs, c'est comme mettre de l'essence dans le moteur de nos voitures. C'est un peu le moteur ou l'énergie pour grandir, pour porter ses fruits, mettre cette reconnaissance dans nos cœurs. Et quand on cesse d'être reconnaissant, quand on cesse de prier de manière reconnaissante, c'est quelque part choisir de se dessécher, de manquer d'essence, de sombrer dans l'amertume, d'être un peu égoïste. Et quand on a du mal à persévérer, je pense que quand les choses sont difficiles, en famille, au travail, en église, quand on n'a peut-être pas envie de lire nos Bibles, quand on dit « est-ce que je fais des progrès dans la vie chrétienne ? Est-ce que je suis sur cette voie de la maturité ou pas ?» Je pense commencer là avec cette liste de raisons d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus. C'est choisir de vraiment repartir de nouveau. Et quand on fait ça de manière simple, de manière humble, je pense qu'on sait tous qu'il y a un effet bénéfique. Ça change notre manière de penser. Ça nous prépare pour cette... c'est le mental. Et ça nous prépare pour cette lutte interne et pour se revêtir ces sentiments d'amour fraternel pour les autres. Alors que le Seigneur nous aide donc... À poursuivre sur ce chemin de la maturité en gardant Jésus au centre. Je vais prier. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier en effet parce que tu as été bon à notre égard, tu as été bon envers nous. Nous ne te cherchions même pas, nous étions morts dans nos péchés, on vivait à... On marchait dans ces péchés qui te déplaisent, comme des esclaves. Et tu es venu avec la parole, cette parole concernant Christ, cette parole de la grâce. Et tu nous as sortis de là. C'est ton œuvre, c'est ton action, c'est toi qui l'as fait. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te louer, te remercier pour ce que tu as fait. Tu nous as choisis, tu nous as aimés. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te dire merci et nous voulons te demander de nous aider à nous revertir de ce que de cette nouvelle nature que tu nous as donnée. Merci parce que notre vie est cachée en celle de Christ. Et aide-nous à grandir, à porter ses fruits. Nous savons que c'est ton œuvre en nous. Ce n'est pas par notre énergie, par notre force. Et nous prions que tu sois à l'œuvre par ton esprit, par cette connaissance que tu nous as donnée de ta personne. Et nous prions pour ta grâce et pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.